et du deuxième tour le 30 et le juin et le 7 juillet.
Jonathan.
Encore Benjamin, mais c'était bien pour la dernière.
Bah, décidément, c'est la troisième fois pour la dernière. Oui. Benjamin, vas-y, excuse-moi.
Pas de souci. Non, mais sans répéter, engagez-vous, investissez-vous si vous en avez la capacité et le temps. Donnez procuration, prenez procuration, parlez-en autour de vous. On a besoin d'une mobilisation totale et universelle. Si aujourd'hui, la gauche, on a perdu, il faut le dire, pas mal de batailles, je pense qu'aujourd'hui, on a la responsabilité de gagner la guerre contre cette extrême droite et contre les politiques d'Emmanuel Macron. Donc oui, il faut donner de l'espoir. On peut l'apporter, cet espoir, avec tout le peuple de gauche, pour notre avenir et aussi celle des générations futures.
Eh ben merci à tous, merci d'être venus dans cette émission. J'espère qu'on vous a redonné un peu le goût de la politique et l'envie de vous battre. Gardez toujours la tête haute, vous qui défendez la justice contre l'injustice et contre les idéaux d'extrême droite. On va finir par la petite phrase d'Assé. Le monde changera sans fin, n'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile et surtout pas récupérable, ni réduit. Du câble, d'y rester face à l'injustice, ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté, sans oublier partisan. Allez, rendez-vous samedi 14h, place de la Bourse, et le 22, vous avez un forum sur la précarité, ça suffit, on s'organise, c'est à 14h au Douvres, ça aussi, ça va peut-être se moduler, parce que bien évidemment, nous aussi, on est des militants, et qu'on sera dans les manifs antifascistes ce samedi-là. Donc, je sais pas comment on va faire, mais on va le faire, les gars. Si vous êtes tous au rendez-vous, on sera tous ensemble.
Merci. Imaginez toujours les guérisons de nos morts.
Ville. Les deux autres députés sortants de la NUPES, Nicolas Thierry sur la deuxième circonscription Bordeaux-Centre et Alain David sur la quatrième circonscription, celle de la rive droite, notamment Lormont-Senon, seront également reconduits sous l'étiquette, j'imagine, Front Populaire qui devrait être mise en place. Dans la presse aujourd'hui, on peut lire également les intentions du Parti Socialiste qui se donne notamment pour objectif de reprendre la cinquième circonscription, celle du Médoc, qui avait élu un député RN en 2022. Le Parti Socialiste veut y présenter Pascal Gott qui avait été député sous le quinquennat Hollande. On a appris également hier que le NPA anticapitaliste, donc le nouveau parti anticapitaliste, tendance anticapitaliste qui résulte de la scission il y a plus d'un an maintenant, a pris la décision de rejoindre le Front Populaire. Je cite leur communiqué, à l'heure où le RN et ses alliés sont en position de prendre le pouvoir, le Front Populaire porte un espoir pour la gauche sociale et politique, contre les réformes libérales, pour les luttes antiracistes, environnementales, féministes, LGBTI, pour tous les mouvements, pour l'égalité des droits. Dès demain, donc aujourd'hui, nos militants, militantes vont s'engager pleinement pour faire gagner les candidats et candidates du Front Populaire et inverser la dynamique mortifère dans laquelle nous nous trouvons. Avec nos porte-paroles, nous sommes décidés à prendre toute notre place dans la campagne, y compris en proposant des candidats et candidates. Voilà le communiqué du NPA anticapitaliste. Et puis, je vous informe aussi qu'il y aura une manifestation intersyndicale à Bordeaux ce samedi à l'appel de la CGT, la CFDT, FSU, Solidaires et l'UNSA, avec ce mot d'ordre « Toutes et tous unis pour le progrès social, la démocratie et la République ». Cette manifestation, elle partira de la place de la Bourse, donc samedi, 14h, place de la Bourse, pour un défilé par le cours Alsace-Lorraine, Aristide de Briand et une fin, place de la Victoire. Midi 13 sur la Clé des Ondes, c'est le plat de résistance dans lequel on accueille quatre représentants et représentantes des organisations de jeunesse des partis de gauche. Phileas Jovovic, bonjour. Tu es membre des Jeunes Écologistes. Tu as 21 ans et toi, tu es étudiant en urbanisme. À côté de toi, Andrea Fernandez, bonjour. Des Jeunes Socialistes, tu as 20 ans, tu es étudiant en histoire et géopolitique internationale. Nicolas Rochard, bonjour.
Bonjour.
Des jeunes communistes, toi tu as 24 ans, tu es étudiant en philo. Et puis Déborah, des jeunes insoumis, bonjour Déborah.
Bonjour.
Et toi, tu as 22 ans et tu es étudiante en sciences politiques. Alors on vous reçoit déjà parce qu'on aime bien à la Clé des Ondes écouter ce que nous disent les jeunes, parce que vous êtes parfois un peu plus en prise avec les enjeux réels que parfois vos aînés devenus des pros peuvent avoir tendance à mettre de côté, et aussi voire surtout parce que vous avez publié dès lundi un communiqué de presse commun appelant à l'union. C'était titré « L'union seul rempart contre l'extrême droite ». Communiqué signé par les jeunes socialistes, les jeunes écolos, les jeunes insoumis, les jeunes communistes que vous êtes, mais aussi les jeunes de Génération et Nouvelle Donne Campus. Vous y écriviez notamment « Le 30 juin, nous devons tout faire pour ne pas laisser le fascisme arriver au pouvoir ». Je voudrais commencer par vous demander un peu comment ça va, comment vous vivez ce moment où je crois on est un peu tous traversés par plein d'émotions parfois contradictoires. Dans quel état d'esprit vous êtes, Phileas, pour commencer, des jeunes écolos?
Moi, tout d'abord, dimanche soir, je pense que j'étais profondément choqué. C'est-à-dire que j'ai d'abord vu les résultats des élections européennes avec cette France marron. Et d'un coup, après, cette annonce de dissolution, en fait, j'y croyais pas. Ouais. Je voyais ça dans toutes les boucles, que ça s'affolait dans tous les sens. J'avais du mal à croire que c'était vrai. Et je pense que je pense qu'on a tous eu du mal à s'endormir, et c'était j'ai pas réalisé direct, et avec toute la fatigue accumulée par la campagne européenne, j'avais du mal à croire qu'on allait y retourner. Ouais. Mais
et depuis alors?
Depuis je pense que depuis le rassemblement à la place de la victoire, je pense que j'ai repris vraiment espoir, et j'y crois vraiment, parce que ça a permis de redonner de la force, de voir tous ces jeunes dans la rue, et de voir qu'on n'est pas seul. Et je pense que même si, comme on dit, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, c'est surtout aussi la gauche qui est aux portes du pouvoir, et entre guillemets 3 ans avant que ce qu'on aurait pu l'être. Je pense qu'il y a quelque chose à faire.
Andrea, des jeunes socialistes, c'est quoi ton état d'esprit?
Mais un peu pareil, nous, on était contents de finir la campagne des européennes, et on apprend après déjà des résultats plus qu'inquiétants avec l'extrême droite à plus de 30%. Que le président de la République dissout, et on était un peu fatigués, mais surtout choqués d'apprendre cette dissolution. Mais comme le dit Phileas, je pense que après cette manif de
lundi soir.
De lundi soir, merci. C'est très court maintenant. De lundi soir, on est plus que motivés. On était contents d'apprendre en plein dans la manif, en fin de soirée, que tous nos partis avaient réussi à se décider pour une union.
Mmh. Nicolas, des jeunes communistes?
Oui, forcément, ça a été reçu dimanche soir comme un véritable coup de massue. Hein. C'est-à-dire qu'on s'était réunis avec les camarades, et bon, on s'attendait évidemment au score qui était plus qu'inquiétant. Mais la dissolution, c'est vrai que ça nous a achevé, on va dire. Et malgré tout, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on garde espoir, hein, parce que cette union de la gauche, ce front populaire, ce nouveau front populaire, pour moi, n'est pas, comme pourraient le dire certains, cette espèce d'union du désespoir, mais bien au contraire, une union de pour moi, ça serait plus de la raison, hein, qui nous pousse à écraser, du coup, essayer du moins de repousser le plus possible cet obscurantisme, pardon, de cette droite qui frôle déjà le pavé de l'Assemblée. Mmh.
Mmh. Déborah, pour les jeunes insoumis?
Y a eu beaucoup de déceptions, on va dire, de voir ce résultat. Déception de voir la montée spécifiquement de Reconquête, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il passe la barre des 5%. Bon. Mmh. On espère qu'il ne le passe pas, parce que ça fait un bout de temps qu'il passe dans les médias tous les jours, et on se dit, putain, ils n'ont pas la légitimité pour passer autant dans les médias, et là maintenant, on ne peut plus le dire, et ça dégoûte.
Donc Reconquête, le deuxième parti d'extrême droite mené par Marion Maréchal Le Pen,
et ça augmente les nationalistes qui sont élus, ça augmente leur représentation, leur place, on va les avoir tous les jours dans les médias peut-être, et ça augmente leur force de parole partout, et ça dégoûte, ça déçoit beaucoup. Et bon, on est encore sur nos petits souliers, même si nos partis respectifs se sont mis d'accord sur le principe, mais on s'attend à ce qu'ils fassent des choix stratégique et encore plus rapide, vu le moment.
Justement, sur cette question de l'union, je disais, vous avez été assez rapide à dégainer, à dire, voilà, il faut l'union. On a senti qu'il y avait quand même cette fois-ci une pression assez importante de la part de la gauche en général pour dire bon, faut arrêter de déconner quoi. Qu'est-ce qui fait que vous, vous y croyez particulièrement à cette union et que ça vous semble être indispensable et faisable et enfin à vous voir et voir, j'ai l'impression, comment vous échangez et comment vous vous mettez d'accord vous chez les jeunes rapidement, ça a l'air faisable. C'est quoi les recettes de cette pour que ça marche peut-être, Déborah?
Je pense que c'est, on n'a pas l'expérience des vieux, déjà, parce qu'eux, ils ont 20 ans qu'ils militent ensemble, ils ont 20 ans de ressenti ensemble, et nous, on n'a pas 20 ans de ressenti, on n'a pas eu le temps de se mettre en colère, de se prendre la tête autant. Et pour beaucoup d'entre nous, on est jeunes militants. Bon, moi, je commence à militer dès mes 16 ans, mais beaucoup commencent à militer à 20 ans, 21 ans quand ils arrivent à la fac. Donc, on arrive sur d'autres bases, et pour nous, c'est plus logique de se mettre ensemble, parce qu'on est d'accord sur un, deux, trois. Oui, sur le quatrième, on n'est pas si d'accord que ça, mais on a déjà les trois premiers points où on s'entend, donc c'est plus facile pour nous d'appeler à l'union et de se mettre ensemble.
Andrea, pour les jeunes socialistes, tu partages cette vision-là ?
Oui, je partage cette vision, et c'est vrai que on a moins de militantisme, et puis on a moins eu le temps effectivement de se taper dessus, même si avec les européennes on était un peu divergents. Je pense que là, pour parer à l'urgence, et mais même en temps général, il faut que la gauche puisse s'unir pour lutter face à la montée de l'extrême droite qui est aux portes de Matignon.
Et peut-être justement, c'est quoi, Déborah disait, là on est d'accord sur 1, 2, 3, sur une bonne base, et puis après il reste peut-être à négocier sur le reste. Si vous, vous étiez à la table des négociations là à Paris, ce serait quoi peut-être les choses qui vous semblent vraiment la base programmatique commune à mettre en avant dans le cadre de ces élections à venir, Nicolas, pour les jeunes communistes?
Il faudrait mettre en avant évidemment les travailleurs, les plus démunis aussi, qui forcément sont ceux qui, pour la plupart, ont été trompés, selon moi, par le Rassemblement National. Parce qu'on a quand même remarqué qu'une grande tranche des travailleurs avait voté, des ouvriers avaient voté pour le Rassemblement National, qui est selon nous une arnaque sociale. Donc forcément, il faudra les remettre en avant, ces gens-là, et essayer de les convaincre le plus possible. Les abstentionnistes, évidemment, et les jeunes surtout, qui ont majoritairement voté pour ces partis d'extrême droite. Ensuite, évidemment, je pense qu'on s'accordera sur les points comme l'immigration, qui forcément, nécessairement, va poser beaucoup de problèmes, avec l'arrivée du Rassemblement National et certainement de cette union des droites, bon, qui semble un peu bancale pour le moment, mais enfin, ne sait-on jamais, quoi.
Donc, ce serait quoi l'accord sur cette question-là de l'immigration? Ce serait d'arrêter, en tout cas, de stigmatiser. Ce serait de dire oui, on ouvre les frontières parce qu'il y a la crise climatique et qu'il va y avoir des migrations liées au réchauffement climatique. Ce serait quoi?
Bien sûr, c'est-à-dire au moins avoir des aides concrètes pour les immigrés, tout simplement. C'est-à-dire que ceux qui arrivent, le problème étant qu'on peut, on peut pas décemment leur dire bon, maintenant vous repartez. On est dans l'obligation, je pense, en tout cas, de les accueillir et de les aider le mieux qu'on peut, malgré évidemment les difficultés qui se présenteront à nous. Et ça, c'est quelque chose qui va falloir, je pense, faire aussi comprendre aux gens, quoi, que cette immigration dont parle le Rassemblement National, pardon, n'est pas le problème. Le problème en soi, c'est, bon, on l'a toujours dit, c'est caricatural, mais c'est le capitalisme, c'est cette espèce de droite néolibérale qui aujourd'hui, nous achève.
Phileas, sur cette question de l'union et des bases peut-être programmatiques partagées?
Je pense que c'est important aussi sur cette union de la gauche qu'il y ait une vraie planification écologique et un vrai plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et je pense aussi par exemple au zéro artificialisation net qui a été mis en place par ce gouvernement-là, mais qui a priori est en passe de ne pas être du tout respecté. Et je pense que ce gouvernement de gauche qui va se mettre en place, il faut qu'il se positionne sur ça, il faut qu'il interdise tous ces grands projets inutiles comme la 69, ou par exemple des projets comme le Lyon-Turin, même si je sais que sur ce point-là, il y a quelques divergences, mais qu'en fait ce gouvernement se positionne sur ces grands projets climaticides, les interdise, et avoir un vrai plan pour faire de la France un État écologique, et un État en fait qui à la fois s'adapte au changement climatique, mais aussi l'atténue. Et c'est pour ça aussi qu'il faut une véritable justice fiscale pour la suite, et je pense que sur ça on est tous d'accord qu'il faut taxer les riches, peu importe que oui. ça s'appelle l'ISF climatique, l'impôt sur les grandes fortunes, mais quelque chose qui permette du coup qu'on fasse payer les plus riches et non les plus précaires qui subissent de plein fouet la crise climatique et la crise économique qu'on traverse.
Dans les choses, alors hier on faisait une émission avec des personnes qui sont en milieu plutôt rural en dehors des grandes villes, et les questions, notamment deux questions qui ressortaient, c'est celle du transport et celle du logement qui concernent des millions de Français, y compris et notamment en zone rurale, et qui sont des problèmes au quotidien. Là-dessus, est-ce qu'il y a des choses dans vos parties, dans vos orgas qui ressortent et qui peuvent être à même peut-être de séduire aussi, en tout cas de venir parler à des personnes qui sont dans ces besoins très concrets du quotidien? Je ne sais pas qui veut répondre, Déborah, Andrea, Déborah.
Je sais que nos parties ont l'intention de développer le ferroviaire et aussi les mobilités dans les villes. Peut-être que ce ne sera pas dans les 100 premiers jours, et ce sera pas, c'est plus long à mettre en place. Donc, mais le développement des transports en commun, c'est quelque chose qui est cher à la France Insoumise, je suppose aussi au Vert. Donc il y a ça, et il y a la construction en fait, de plus de logements sociaux. Et que ces loyers aussi soient abordables, et surtout en zone rurale, même si, et parce que aussi ces constructions en zone rurale permettent d'éviter que tout le monde vienne en ville, qu'ils puissent se stabiliser dans leur territoire, et avec ça, en fait, construire leur petit, on va dire, se développer, créer quelque chose, au lieu de tout forcer tout le monde à venir en ville, à souffrir en ville surtout, et ça permet de garder nos territoires en vie, que ça se déserte plus, en fait.
En 1936, le Front Populaire, son slogan, c'était « Pimper liberté ». Est-ce qu'il pourrait y avoir, en 2024, un slogan comme ça, qui unisse la gauche derrière des mots d'ordre clairs et porteurs, Andrea, pour les jeunes socialistes?
Je pense que « Pimper liberté », ça peut surprendre en 2024. Voilà, enfin... On parlait des territoires agricoles et ruraux aujourd'hui. Il y a une vraie désertification du service public dans ces lieux, dans ces milieux-là, une vraie désertification des transports. Je pense que c'est primordial d'y remédier au plus vite. Et je pense que « Pain, paix, liberté », alors il faudrait peut-être l'adapter au goût du jour en 2024, mais ça pourrait être une bonne base pour créer un slogan plus prenant.
Et c'est vrai que jusque-là, on entend plus... Enfin, ce qui est davantage mis en avant, c'est ce qui coince entre vos partis. La brutalisation de la vie publique, politique, la question des grands projets. Et puis, c'était quoi d'autre? La question palestinienne aussi, Palestine-Israël. Moins des mesures porteuses partagées. Est-ce que c'est peut-être l'étape d'après pour arriver à vraiment enclencher une dynamique commune que d'arriver à, voilà, à porter quelque chose en positif de partagé? Phileas, jeunes écolos.
Oui, c'est sûr que je sais pas trop si on doit d'abord voir sur quoi on est vraiment en divergence plutôt que se mettre d'accord sur les choses qui nous unissent. Parce que là, l'important, c'est d'abord de s'unir, de présenter des candidats uniques dans chaque circonscription, d'aller très vite parce que la campagne va être courte. Et après, que ce soit sur entre guillemets, ces grandes mesures qui coincent ou même les questions de qui est-ce qu'on met à la tête, mais en fait, ça c'est après, et c'est une fois qu'on aura obtenu cette majorité sur un projet d'espoir. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, même si ce n'est pas ça qui fait le plus vendre, c'est aussi quelque chose qui est contre. On est là, on se présente contre l'extrême droite pour pas qu'elle arrive au pouvoir. Donc après, j'ai quand même du mal à voir sur le fond qu'est-ce qui vraiment nous... C'est vraiment sur des petits détails ou sur quel projet dérange qui, ou sur quel truc nous on veut aller plus loin, les autres moins loin. Mais dans l'ensemble... J'ai du mal à voir vraiment si on a vraiment des énormes différences.
Alors, je vous propose de revenir maintenant un peu sur la mobilisation des jeunes. On a vu lundi notamment à la manifestation à Bordeaux, manifestation quasi spontanée, enfin qui a été appelée par quelques collectifs. J'ai vu que vous y aviez appelé aussi pour une partie d'entre vous dans la journée du lundi, mais ça allait très très vite. Et il y avait énormément de jeunes, notamment des lycéens, lycéennes. Ça faisait longtemps que cette tranche d'âge, on ne l'avait pas vue aussi mobilisée. Peut-être on l'avait un petit peu vue au moment de mobilisation contre la réforme des retraites, au moment du 49-3, où il y avait eu plein de jeunes d'un coup, mais sinon les mobilisations lycéennes, étudiantes, ça fait longtemps qu'elles sont plus massives. Comment vous interprétez ça? Est-ce qu'il y a un déclic, un retour de cet engagement-là? Est-ce que c'est la situation simplement et la peur du fascisme qui déclenche tout ça? Nicolas, pour les jeunes communistes?
Oui, je pense qu'alors au-delà d'un déclic, c'est surtout des jeunes qui, pour la plupart, je pense, étaient déjà quelque part politisés, mais qui se mobilisaient pas forcément énormément. Enfin, c'est vrai que la plupart, je les voyais pas forcément en manifestation ou tractés. Et là, c'est vrai qu'ils sont mobilisés parce qu'ils se rendent compte, selon moi, de la dangerosité de ce qui peut nous arriver. Et ça m'a fait plaisir personnellement de voir tous ces jeunes se mobiliser. Et même quand on est parti dans une manifestation un peu sauvage, on a continué le mouvement. Et bon, à la fin, ça s'est un peu estompé. Mais disons qu'on a quand même bien tenu le cap et je suis plutôt content.
Déborah, qu'est-ce que ça t'inspire, cette mobilisation de la jeunesse? En tout cas.
Je partage un petit peu l'avis de Nicolas. Mais ces jeunes sont souvent déjà mobilisés ou déjà intéressés. Ils nous suivent sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas souvent la possibilité de venir sur le terrain. Et c'est, on va dire que ça, c'était l'occasion, la bonne occasion pour venir sur le terrain, de faire la première fois, de venir après, nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Bon, mais je pense que cette mobilisation va être spécifique aux législatives anticipées. Ils sont conscients du danger et sont mus par en fait, l'urgence de la situation.
Même constat, Phileas, Andrea. Andrea, jeune socialiste.
On en a retrouvé beaucoup de jeunes à la manif et je partage ce même constat. Et je pense que ces jeunes, ils n'ont pas envie. Nous, on se le disait à l'annonce de la dissolution. Et je pense que beaucoup d'entre nous et des jeunes qui n'étaient pas forcément mobilisés se le sont dit. Ils n'ont pas envie d'être la première génération à connaître l'extrême droite au pouvoir. Donc voilà, même s'ils n'ont pas forcément le droit de vote parce que ils ont moins de 18 ans, je pense qu'ils ont envie de se mobiliser pour convaincre les plus grands d'aller voter et d'aller bien voter, voilà, de faire barrage et de penser aussi à cette génération qui n'a pas envie d'être la première génération à avoir l'extrême droite et Jordan Bardella comme Premier ministre.
Dimanche dernier, le premier choix des jeunes, de ceux qui ont le droit de vote en tout cas, ça a été l'abstention. 60% chez les 18-24 ans, 65% chez les 25-34 ans, donc 10-15 points de plus que la moyenne nationale. À l'inverse, les plus de 70 ans, eux, ils sont allés voter à 71%. Et du côté des jeunes donc, qui ont voté, ils ont voté en majorité pour une liste de gauche, entre 40 et 50%, je crois, si on cumule toutes les listes de gauche, puis pour l'extrême droite. On imagine donc que ça va être un enjeu important de cette courte campagne d'aller séduire cette jeunesse, en tout cas lui la convaincre de voter pour le Front Populaire. Vous, autour de vous, est-ce que vous connaissez ces abstentionnistes ou ces personnes qui ont pu voter pour le RN? Comment vous les voyez et comment aller les chercher peut-être dans cette campagne pour les convaincre de voter pour la gauche? Phileas, pour les jeunes écolos?
Des fois, c'est assez difficile. Enfin, personnellement, en tant qu'urbain, je voudrais dire de croiser au quotidien ces jeunes qui peuvent voter RN ou qui s'abstiennent. Après, des jeunes qui s'abstiennent, ça j'en connais pas mal. Et par des intérêts, ça sert à rien. Et je pense que c'est eux qu'on doit aller chercher surtout, parce que même si des jeunes RN, ils sont pas tous convaincus à fond, et peut-être qu'ils ont voté juste ça par dépit ou parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de protester contre l'ordre mis en place, parce que c'est aussi souvent ça, ce vote RN. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en allant chercher les jeunes qui ne votent pas, parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien, et leur dire, mais là, si, ça sert à quelque chose. Parce que là, si vous ne votez pas, c'est l'extrême droite au pouvoir. Et là, vous allez vraiment le regretter après. Et ça va vraiment sentir. Ça ne sera pas que Macron qui, déjà, avec par exemple sa loi immigration, sa politique vraiment de droite dure, même j'ai envie de dire, là, ça fera mal, quoi.
C'est vrai qu'il y a cette division qu'on voit très bien sur les cartes électorales entre les grandes villes où ça vote à gauche et puis le reste du territoire où, là, dimanche dernier, le RN était en tête partout. Ça veut dire que vous ressentez vraiment, vous aussi, cette fracture entre peut-être deux ou trois ou je ne sais pas combien de jeunesses différentes dans des milieux différents, dans des espaces géographiques différents. Vous le ressentez, vous aussi, Andrea, pour les jeunes socialistes?
Oui, on le ressent un peu. Je pense que... Enfin, nous, aux jeunes socialistes, on a beaucoup plus de militants et d'adhérents sur Bordeaux et sa zone. Et on a beaucoup de mal à aller chercher vraiment des jeunes militants dans les campagnes. Alors déjà, du fait de l'éloignement, mais je pense que aussi c'est du fait que les campagnes votent majoritairement déjà Rassemblement National. Et ils n'ont pas forcément toujours le moyen ou la possibilité, ou ils ne sont pas forcément accroché au monde urbain par l'université de s'informer autrement. Et donc, ils sont poussés par la facilité et par l'opinion des parents qui votent plus Front National. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes-là et de les convaincre que, comme on le disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas, de cette peur de l'extrême droite, qu'il ne faut pas l'extrême droite au pouvoir le 30 juin.
Et peut-être justement, comment on va les convaincre? Ce serait quoi les mots d'ordre ou les... Enfin, ça revient un peu à la question d'avant, mais sur quel point peut-être peser pour les convaincre? Est-ce que c'est par des questions de programme, par des mesures, ou est-ce que, en fait, ça ne se construit pas par un travail plus long qu'il a et du coup un peu impossible à faire? Mais je pense aussi à l'ancrage qu'ont pu avoir certains partis par le passé, notamment le Parti communiste, dans des zones ouvrières, y compris dans les zones rurales. Est-ce qu'on peut rattraper ce décrochage ou cette déprise de certaines orgas en 2 semaines et demie, Nicolas?
Évidemment, ça va être un peu compliqué parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps, c'est évident, mais le fait est qu'on peut parler à ces gens-là malgré tout. Ces gens-là qui se sentent parfois abandonnés par la gauche, je pense, parce que sur les questions du travail, sur les questions de la pauvreté, de la précarité, c'est des choses sur lesquelles ils ne se retrouvent plus du tout chez nous. Ce qui, et par contre, chez le RN, ils s'y retrouvent parce qu'ils ont l'impression presque qu'ils seraient socialistes. Mais justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est une escroquerie. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on joue et qu'on leur montre, notamment une chose très simple, sont les votes à l'Assemblée. Voilà, c'est les votes à l'Assemblée du RN, c'est ça va à l'encontre même de la classe travailleuse, à l'encontre même, pardon, des prolétaires et des plus démunis. Donc je pense
parce que
si
le RN
arrive à jouer là-dessus,
ne fait jamais le jeu des ouvriers, mais celui des patrons, en gros.
Exactement, oui. En plus d'être xénophobes, ils sont foncièrement, je pense, néolibéraux, libéral, pardon.
Déborah, sur cette question-là, des pistes un peu de comment vous, jeunesse politisée urbaine, parlez à une jeunesse rurale qui s'abstient ou qui vote RN?
Pour le travail de l'abstention, c'est évidemment du temps long. Et je partage l'idée que beaucoup d'entre eux pensent qu'ils ne sont pas compétents en politique, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en politique et que c'est aussi impossible à comprendre. Ça va être difficile de leur expliquer que ben non, vous pouvez comprendre et vous comprenez. Si, allez, prenez 5 minutes avec nous et on va vous expliquer. Vous allez voir que vous pouvez nous comprendre et comprendre le danger en face. Et il faut, on va dire, redonner aux jeunes ce sentiment de compétence en politique, dire que vous avez le pouvoir de décider et vous avez aussi la capacité de bien saisir tous les enjeux. Personne ne veut vous enlever ça. Et il faut aussi parler, revenir sur les enjeux sociaux pour ceux qui votent RN. Revenir sur des bases programmatiques et dire que nous, on va défendre les causes sociales, on va rétablir en fait tout ce que Macron a détricoté dans les mesures sociales, le RSA qu'il conditionne, l'assurance chômage qu'il veut encore enfoncer beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Revenir sur ces sujets-là et leur expliquer qu'on a des propositions pour les jeunes, je crois, on veut pour les étudiants, pour les lycéens qui sont en zone rurale ou bien en zone urbaine, faciliter leur intégration, qu'ils soient beaucoup plus équipés, parce que les jeunes sont souvent les plus précaires, et que tous nos partis ici présents veulent diminuer, voire éradiquer cette précarité. Donc on peut, pour ceux qui votent RN, leur expliquer nos mesures, nos positions pour améliorer leurs conditions sociales, et pour ceux qui s'abstiennent, il va falloir leur donner la sensation, leur redonner peut-être la sensation qu'ils ont du pouvoir dans le champ politique et qu'ils le prennent dès le 30 juin.
Phileas, des jeunes écolos, une réaction?
Oui, en fait, j'aurais aimé ajouter qu'en fait, il faut surtout aller à leur rencontre. Parce que nous, pendant la campagne, on a essayé, parce qu'on a une adhérente qui est sur Langon, donc un territoire vraiment marqué par une forte présence du RN. Et en fait, ce que nous ont dit les gens pendant les européennes, même s'ils ne votaient pas pour nous, c'est en fait, ça fait du bien de voir quelqu'un d'autre que le RN tracter à leur marché du vendredi matin. Parce qu'en fait, à force et à force et à force, ils sont là toutes les semaines. Donc forcément, des gens qui sont un peu moins politisés et qui n'ont pas d'autres messages, à force, ils sont martelés du track du RN, de leur message. Ils voient, eux, ils sont là, ils sont présents pour nous. Je sais pas trop ce qu'ils proposent, mais ils viennent à notre rencontre. Donc je pense qu'il y aura un enjeu, une fois qu'on aura vraiment tous les candidats et les candidates, d'essayer d'aller dans les territoires où on a moins de militants et vraiment d'ajuster par rapport aux circonscriptions où on est un peu plus en force. Je pense par exemple à la circonscription de Loïc Prud'homme où c'est jamais gagné d'avance, mais c'est quand même des circonscriptions où la gauche est en force, et donc d'essayer d'aller aider sur ces territoires et d'être présent, en fait, d'aller voir les gens qui votent pas, les gens qui votent, et de montrer que la gauche se soucie aussi de ces territoires-là, j'ai envie de dire semi-ruraux, parce que Langon, c'est quand même une ville assez conséquente aussi.
Eh bien, merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là avec nous ce midi. Phylas Jovic des Jeunes Écolos, Andrea Fernandez des Jeunes Socialistes, Déborah, j'ai pas noté ton nom de famille, mais en tout cas,